L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Aurélie Bécuve, musicienne, flûtiste, metteuse en scène, très investie dans la mission de transmission de la mémoire, notamment avec la pièce « Le fer Fugbar aux enfers » dont elle a assuré la direction. Et aujourd'hui, elle nous parle du témoignage de Lili Rosenberg-Keller, rescapée de la Shoah et qui sera à Strasbourg dans le cadre des Bibliothèques idéales. Ce sera le 29 mars à l'église Saint-Guillaume à 17h. Aurélie Bécuve, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de vous, de votre implication dans la transmission. Alors, vous n'êtes pas juive, vous êtes originaire de Normandie.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans ce passage de mémoire si important ?
Alors, mes origines normandes n'ont pas de lien direct avec l'engagement que je me suis donné depuis maintenant quelques années. En tant que flûtiste à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, je suis amenée à, bien sûr, à développer un répertoire particulier d'orchestre. Mais en fait, ça n'a pas non plus de lien direct avec ma profession principale qui est celle-ci. C'est que je m'occupe d'une association d'opérettes qui s'appelle Brin de Folie, avec laquelle je fais principalement des opérettes de Jacques Offenbach, qui est le grand maître en la matière. Et puis le hasard a fait qu'il y a quelques années à peine, j'ai découvert cette opérette que Germaine Tillon a écrite, donc Le Fer Fugbar aux Enfers dont vous parliez précédemment, lors de son incarcération dans le camp pour femmes de Ravensbrück. Et puis voilà, du moment où j'ai découvert ce livret, que j'ai décidé de m'engager dans le fait de monter ce spectacle, d'en écrire, de faire des arrangements musicaux, de faire la mise en scène, de chercher à programmer, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai eu la chance d'arriver quand même à le monter plusieurs fois, une petite dizaine de fois ici en Alsace, et puis on est allé le donner au Mémorial de la Shoah de Paris, nous l'avons créé en février 22 au camp du Mémorial de Rivesaltes, donc voilà, il y avait quand même des symboliques. Et puis bon, j'ai toujours été une très grande passionnée de cette triste période de notre histoire, mais le fait de découvrir Germaine Tillon par son œuvre, je me suis quand même renseignée sur qui était Germaine Tillon, et puis j'ai toujours pas mal lu sur le sujet, mais là ça m'a donné envie d'aller plus loin, donc je ne lis exclusivement que des archives, des témoignages, des livres sur cette période de l'histoire, principalement sur les déportés, les camps de concentration. Voilà. Et puis, dans mes différentes lectures, évidemment, j'apprends toujours, on a l'impression que, voilà, beaucoup vont dire, mais on lit toujours les mêmes choses, mais pas du tout. Dans chaque livre que j'ai pu découvrir ou chaque témoignage, j'apprends toujours quelque chose de plus qui est toujours aussi plus horribles les uns que les autres.
Chaque histoire va rejoindre la grande
Exactement.
Histoire.
La grande histoire, elle est là, certes. Il y a énormément de choses que je retrouve, des similitudes, bien sûr, de situations, des noms qui ressortent de nazis, de gardiennes dans certains camps. Ça dépend après de dans quel camp les déportés parlent. Mais en tout cas, le fait de transmettre par la musique, qui est quand même mon domaine principal, par l'œuvre de Germaine Tillon, m'a fait me dire, mais en fait... j'ai l'impression que je me suis donné une espèce de mission. Voilà. Alors déjà, en transmettant toujours et au maximum l'ouvrage de Germaine Tillon, mais aussi par le biais que, par ses lectures, j'ai donc un jour lu le livre de Lili Keller-Rosenberg et nous sommes revenus seuls, donc où elle relate son enfance Elle a été à Ravensbrück d'ailleurs, déportée avec ses deux petits frères, âgés de 9 et à peine 3 ans, et leur maman. Ils sont allés tous les quatre à Ravensbrück. Leur papa a été déporté à Buchenwald. Et puis, en me renseignant un peu sur qui était Lili, j'ai fait pareil quasiment à chaque auteur des livres que j'ai lus. Je me suis dit, mais en fait, j'ai découvert assez rapidement qu'elle était encore en vie. Donc j'ai fait énormément de démarches assez compliquées pour arriver à obtenir son adresse postale. Et donc je me suis autorisée à lui envoyer une lettre il y a 3 ans. Et puis un jour mon téléphone a sonné et j'ai entendu ce petit brin de voix absolument incroyable de Lili qui me remercie infiniment de mon courrier. On s'est organisé un rendez-vous, je suis allée chez elle à Lille, je l'ai rencontrée, on a passé 3 heures ensemble qui ont bouleversé ma vie. Et là je me suis définitivement dit que j'avais une nouvelle mission dans ma vie, c'était au-delà de m'enrichir, parce que c'est quand même un enrichissement aussi douloureux soit-il de l'histoire de ces personnes, c'est aussi un devoir aujourd'hui pour moi, à ma petite place, de transmettre au maximum. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver à, tant bien que mal, voilà, mois par mois, année par année, arriver à ce que Lily puisse venir ici à Strasbourg et nous parler de cette enfance volée dans les camps.
Elle sera là, donc, je le disais, le 29 mars à l'église de Saint-Guillaume à 17h, un témoignage rare.
Ouais.
Encore qu'aujourd'hui, comme beaucoup de personnes rescapées de la Shoah, deviennent aujourd'hui des missionnaires, des passeurs
Exactement.
De mémoire. Ils font le tour des écoles auprès des plus jeunes. On fait face aujourd'hui à une résurgence du négationnisme.
Oh oui. Oh
ça,
oui.
C'est quelque chose. Alors, vous m'avez dit que vous avez eu des contacts avec elle, que vous l'avez rencontrée.
Oui.
C'est quelque chose dont ils ont conscience. Alors, la résurgence du négationnisme est simplement l'antisémitisme
Mais bien sûr.
Qui est exponentiel aujourd'hui.
Mais évidemment. Après, malheureusement, est-ce qu'il est exponentiel aujourd'hui parce que les gens osent s'exprimer plus librement? Je crains malheureusement que ça n'a jamais véritablement cessé. La communauté juive a, depuis des siècles et des siècles, a toujours été victime des persécutions. Pour des raisons aussi ridicules, on pourrait en citer plein, mais elles sont tellement absurdes que je cautionne absolument pas cela. Je sais que Lily a décidé de parler justement quand ces négationnistes dans les années 70 ont pu s'exprimer de façon assez virulente. Et ça, comme beaucoup d'ailleurs, ça a délié les langues de beaucoup de personnes qui ont tristement vécu la déportation. C'est que non, on peut plus se taire. Et malheureusement, ils se taisaient pour plein de raisons qui sont connues aujourd'hui. On ne les croyait pas. Ils se faisaient entendre dire « Ah, mais nous aussi, pour nous, la guerre, ça a été difficile. Nous aussi, on manquait de tout. » C'est quand même incomparable avec le fait de pouvoir être dans un camp, qu'on puisse avoir 3 ans, 11 ans ou 50 ans. Il y a encore 50 ans, malheureusement, il n'y restait pas longtemps. Mais voilà, en tout cas, je sais que j'ai pu lui poser la question de savoir ce qu'elle pensait de ce qui se passait politiquement aujourd'hui. C'est quelque chose dans lequel elle ne veut pas s'engager parce qu'elle est véritablement dans une mission de transmission d'une mémoire. D'une histoire, d'une situation qu'elle a malheureusement vécue. Elle a évidemment des idées, assurément des idées sur la situation d'aujourd'hui, qui l'horrifient profondément, mais elle est dans un tel positivisme de la vie, un tel espoir qu'un jour la paix régnera dans le monde. Elle est vraiment pleine d'espoir, presque, j'irai pas de l'insouciance, mais pas loin. C'est-à-dire que si aujourd'hui elle s'attarde sur ce qui se passe, je pense qu'elle aurait beaucoup de difficultés à vivre sereinement et à continuer à transmettre sans un poids réel sur le cœur. Non pas qu'elle néglige ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ça l'effraie oui, profondément,
forcément.
Parce que ça fait remonter évidemment des souvenirs terribles. Même si elle a conscience qu'aujourd'hui, s'il devait, et il y a des situations très difficiles pour la communauté juive, on peut espérer quand même que rien ne se passerait comme ça s'est passé il y a 80 ans. Donc voilà, mais elle est pleine d'espoir et c'est vrai que quand il s'agit de parler de ses points de vue politiques d'aujourd'hui, elle ne veut pas s'engager sur ce terrain. Pour elle, sa mission pour les années qui lui restent à vivre, parce qu'elle a 93 ans aujourd'hui, c'est véritablement d'être une infatigable passeuse de mémoire pour éduquer les jeunes, pour éduquer aujourd'hui les gens, en tout cas éduquer, c'est un grand mot, mais faire en sorte d'éveiller les consciences sur l'horreur qui a pu exister et faire en sorte, en tout cas, que ça ne puisse jamais se reproduire, même si, malheureusement, des choses plus ou moins similaires se passent quand même aujourd'hui.
Alors, avant de venir dans le détail de ce récit, ce témoignage de cette rescapée, Lily Keller, par quel biais elle a choisi de faire cette transmission? Alors, on a entendu différents témoignages. Il y a Simone Pollack ici,
oui,
qui est une Strasbourgeoise, qui raconte les choses de façon très détaillée, peut-être un petit peu de façon mécanique, parce que aujourd'hui il y a une forme de recul par rapport à ce
Tout
récit.
À fait.
Il y a Ginette Kolinka, dont on a pareil récolté le témoignage devant des classes, qui elle a choisi l'humour et qui aujourd'hui interpelle beaucoup justement oui, les collégiens, les lycéens, avec cet humour et un humour aujourd'hui franc et franc
oui,
et
oui,
direct et ça passe bien.
Tout à fait.
Vous avez réussi à identifier aujourd'hui par quel biais elle a choisi de transmettre cette histoire, si douloureuse est-elle, hein.
Ben, c'est vrai que j'ai pu aussi beaucoup regarder avec ce que peut faire Lily et ce qu'elle a pu faire. Effectivement, son discours reste évidemment le même, la ligne conductrice est la même, mais en effet, d'année en année, par le nombre d'interventions qu'elle peut faire, principalement auprès des jeunes qui lui tient vraiment à cœur. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a cette espèce de mécanisme un petit peu de discours parce que c'est mine de rien un exercice particulier aussi que de parler de soi déjà. Et puis quand on parle de soi en parlant d'une enfance qui a quand même elle a fêté ses 11 ans dans les camps, c'est quand même assez abominable. Je pense que sa vie entière est ravagée par cette enfance volée. Elle a quand même, il n'est pas normal déjà qu'une personne, qu'un être humain vive ça, mais un enfant. Elle dit volontiers que elle a évidemment comme beaucoup beaucoup de déportés, elle a commencé en étant mise en prison. Comment peut-on imaginer à 10 ans être en prison alors qu'ils n'ont rien fait? Donc en fait, au départ, j'ai pu voir différents reportages. D'ailleurs, un film est sorti la semaine dernière, je crois, dont elle fait un petit peu la promotion quand elle peut se déplacer sur sa vie, qui est assez formidable. Alors, pour l'instant, il est un peu limité dans le Nord. Mais j'ai vu que du côté de Lyon, ils en faisaient une diffusion. Peut-être avec un peu de chance, ça sera le cas ici à Strasbourg, on verra. Mais j'ai pu voir aussi évoluer un petit peu son discours. Et aujourd'hui, même si, bien sûr, il y a toujours cette spontanéité vis-à-vis du public, quel qu'il soit, sur les questions, elle y répond d'une façon complètement spontanée, très naturelle. Mais dans le récit même de sa vie, de son parcours, elle a eu besoin de structurer son discours pour pouvoir être à la fois le plus juste possible, sans tomber dans un pathos qu'elle estime pas utile et pas nécessaire. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, elle a une manière de parler un peu toujours pareil, on a l'impression que tout est très préparé. Mais obligatoirement, ça doit être très préparé concrètement, parce que déjà, elle a un temps limité pour pouvoir s'exprimer. Je pense qu'elle a envie de passer à côté de pas grand-chose, qui est normal, parce que c'est l'idée de la transmission, c'est d'en dire à la fois un maximum et en un minimum de temps. Donc fatalement... Voilà, moi j'ai vu dans ce film qu'au début, la toute première fois qu'elle a décidé de parler, elle a tapé à la machine, elle a recommencé, alors elle se baladait dans son salon, des va-et-vient pour le dire de façon la plus spontanée, parce que mine de rien, de parler de l'enfer, c'est difficile, et je pense qu'à mon avis, ça c'est mon analyse personnelle, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est un moyen de... Peut-être tout simplement d'arriver à contrôler ses émotions. Je pense que plus c'est un peu calculé dans presque la mise en scène, la mise en mots de sa vie, je pense moins il reste de place au bouleversement évident qui est de revivre à chaque témoignage, de revivre cet enfer. C'est quand même une enfant qui a vécu la faim, la maladie, qui a été face à la mort, hein, à chaque instant. A pu et relate dans son livre quand ils ont été après Ravensbrück, ils sont allés à Bergen-Belsen, c'est là où ils ont eu cette chance de pouvoir être libérés par les Anglais. Elle y a passé que quelques mois, mais ces quelques mois qui ont été terrifiants. Ils sont arrivés, ils n'étaient que parmi des tas de cadavres. À 11 ans, comment peut-on prétendre comprendre et vivre avec... Elle vit quand même, et ça pour le reste de sa vie, c'est terrifiant. Ses deux frères aussi, ils ont eu la chance tous les trois de revenir, leur maman aussi. Malheureusement, leur papa a été fusillé trois jours avant la libération. Il a fait partie, en fait, il fallait éviter de laisser trop de preuves. On connaît un peu l'histoire des destructions des chambres à gaz à Auschwitz ou différents événements. Ils voulaient brûler ce qui restait des camps pour éviter de laisser toute trace possible de leur monstruosité. Mais voilà, à Bergen-Belsen, elle s'est quand même, elle s'est retrouvée quand même face à l'horreur, et leur papa donc a fait partie malheureusement de ces hommes pris au hasard dans un groupe d'une vingtaine de personnes, où malheureusement dont il a fait partie avec son frère qui était là aussi avec lui, et qui ont été fusillés trois jours avant la libération du camp.
Donc le récit, l'émotion, ah oui. Évidemment, il peut pas y avoir l'émotion et le ressenti chaque fois qu'elle raconte, et il y a une mise à distance.
Mais elle est obligatoire si elle veut se protéger aussi, parce que je pense que ça doit quand même être Je pense qu'elle tombe, elle doit être submergée de souvenirs terribles, mais elle est dans une... Moi, c'est ça qui me fascine chez cette femme, c'est qu'elle a toujours le sourire, elle va trouver le positif dans tout. Elle dit, comme beaucoup de déportés peuvent dire, que leur maman leur a donné la vie deux fois. La première fois, bien sûr, en les mettant au monde, et la deuxième fois, en leur permettant de survivre dans le camp, parce que leur maman était évidemment, comme beaucoup de femmes... imposée aux travaux forcés, et donc elle revenait le soir. Les enfants ne savaient jamais si le soir leur maman ferait partie des femmes qui rentreraient. La maman ne savait pas non plus en rentrant le soir si ses enfants étaient encore là, puisque les nazis s'amusaient régulièrement à venir attraper l'un ou l'autre des enfants pour aller les assassiner, et donc les femmes revenaient le soir. Elles n'avaient plus leur enfant et découvraient à ce moment-là qu'il leur avait été... pris et qu'il avait été assassiné. Donc c'est quand même vivre dans une peur constante pendant plus de deux ans, sans savoir ce que sera fait chaque heure qui va venir. Et c'est vrai que Lily dit toujours, mais leur maman était d'un secours. C'est grâce à elle, et alors malgré le peu de force qui lui restait le soir, qui leur racontait des histoires, ils inventaient des recettes de ce qu'ils allaient manger alors qu'ils ne mangeaient rien. Ça, c'est beaucoup, on retrouve ça chez les déportés, le fait de se redonner de l'espoir. Et d'ailleurs, je vois ça dans l'opérette de Germaine Tillion. Il y a tout un passage qui dure plus de 10 minutes sur le menu qu'on va faire le soir ou le lendemain, alors que... ce qu'on peut dire qu'ils mangeaient était nettement insuffisant pour arriver à tenir le coup, mais ils ont eu cette chance de tenir.
Et comment c'est possible justement qu'avec ses petits frères, Robert 9 ans et André 3 ans et demi, ouais. ils s'en sont sortis, qu'ils n'ont pas été éliminés comme on peut le voir dans d'autres camps dès leur arrivée.
Exactement.
Qu'on leur a laissé la vie sauve.
Alors j'ai posé la question à Lily justement. Je lui ai dit pourquoi Ravensbrück, pourquoi pas Auschwitz, puisque la communauté juive était quand même majoritairement envoyée. Et en fait, c'est parce que comme ses parents sont hongrois et qu'il y avait un pacte qui s'est vite rompu, bien sûr, parmi tant d'autres de la part d'Hitler, il y avait un pacte qui normalement imposait, et qui s'est trouvé être le cas pour Lily et sa famille, imposait que les juifs hongrois n'allaient pas directement à Auschwitz et donc possiblement directement à la chambre à gaz, mais devaient être envoyés dans un camp de concentration, mais qu'on ne devait pas les tuer. S'ils pouvaient mourir, j'imagine qu'ils trouvaient que c'était tant mieux, mais que ce ne serait pas... que ce serait de la fin, il n'y a pas d'élimination automatique. Et c'est vraiment parce que c'était des juifs. Même si les enfants sont nés en France, leurs parents étant hongrois, juifs hongrois, c'est ce qui, quelque part, les a protégés et leur a évité à Auschwitz et donc la possible chambre à gaz dès leur arrivée.
Quelle a été leur vie après à Lily et à ses deux frères Robert et André? Ils ont tous eu une longue vie heureuse. On sait que Simone Pollack, par exemple, ne se mariera pas, n'aura pas d'enfant. Ouais. Est-ce que après, comment est-ce qu'on se remet après dans une vie quotidienne, familiale, d'un tel traumatisme enfant?
Alors, je ne vais pas m'engager trop dans les détails parce que je ne les ai pas et je ne peux pas parler à la place de Lily. Mais en tout cas, Lily, aujourd'hui, est encore là. Ses deux frères aussi.
C'est merveilleux.
Voilà, ce qui est assez exceptionnel. Je sais que Lily a pu avoir des difficultés, comme beaucoup de femmes, à pouvoir avoir un enfant, dû à la malnutrition... Ouais. Évidemment, mais elle a quand même une fille, Valérie, qui est une femme absolument exceptionnelle et qui soutient beaucoup, beaucoup sa maman, qui d'ailleurs aujourd'hui la suit vraiment dans tous ses témoignages et ses déplacements. Lily a décidé de témoigner, de parler inlassablement. Elle m'a dit, tant que je suis en vie, je le fais. Tant que je peux parler, je le fais. Ses deux frères, en revanche, ne souhaitent pas témoigner comme elle le fait. Son frère Robert, qui est celui qui est le plus proche en âge d'elle, a travaillé dans une firme textile dans le Nord, ce que faisait son papa, en fait, à l'époque. Mais lui, c'est sa famille, il veut pas parler de ça. En revanche, André, lui, alors par son jeune âge, je sais qu'elle m'a dit que pour lui, c'était difficile de témoigner, tout simplement parce que d'être déporté et de vivre ces horreurs à 2 ans, 3 ans, en fait, les souvenirs qu'il a, il n'arrive pas à faire le tri entre ceux qui sont vraiment ses souvenirs
et
ce qu'on lui a raconté. Donc, il préfère ne rien dire, du coup, pour être le plus honnête possible. En revanche, je sais qu'il a fait une thèse d'état sur les enfants juifs et Tziganes dans le système concentrationnaire nazi. Ça, je sais qu'il a fait une thèse d'état sur le sujet. Donc, c'est sa manière à lui d'en parler. Via les autres. sans s'impliquer directement lui sur des souvenirs qu'il estime imprécis. Il y en a, il est quasiment persuadé que c'est vraiment des souvenirs personnels. Pour d'autres, il a tellement eu les témoignages de son frère, de sa sœur, de sa maman et de toutes les personnes qui ont eu le courage de parler. Donc il préfère parler pour les autres et défendre la cause des autres que la sienne. Voilà, mais Robert n'en parle pas. Voilà ce que m'a dit Lily, en tout cas.
Aurélie Bécuve, alors on va avoir évidemment cette chance énorme que Lily Rosenberg-Keller sera à Strasbourg ce 29 mars, donc c'est à l'église Saint-Guillaume à 17h. On vous espère évidemment une salle pleine, une salle de tout public, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, ces messages-là sont importants en direction de la jeunesse,
mais
des
pas
gens
que
qui remettraient également
voilà.
en cause. En fait.
Exactement.
L'idée, ce serait quand même de toucher aujourd'hui...
Un maximum de gens. Maintenant, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que je vois tristement passer, malheureusement régulièrement sur les réseaux sociaux, des commentaires tout à fait inappropriés, en fait, sur les différentes choses qui peuvent être dites sur cette période. Lily, vraiment, est une passeuse de mémoire sur l'enfer vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. La passerelle n'a pas à être faite sur ce qui se passe aujourd'hui, qui est certes terrible, horrible, qu'on peut avoir à juger, pas juger, mais ce n'est pas le propos. Lily est là pour sensibiliser le tout public. Alors évidemment, elle va mettre un petit point d'honneur sur la jeunesse, parce que c'est les futurs adultes de demain, c'est les futurs passeurs de mémoire, c'est comme ça qu'elle les appelle. Moi, elle m'a dédicacé un livre pour ma fille, où elle me dit, elle écrit à Jeanne, ma petite passeuse de mémoire, parce qu'ils ont effectivement la vie devant eux. Et si elle peut éveiller les consciences et faire en sorte que ne serait-ce que dans un ou deux, il s'éveille cette tolérance. C'est surtout ça, en fait, elle prône la tolérance, quelle que soit. Elle supporte pas l'antisémitisme, évidemment, le racisme, évidemment.
Certaines causes pourraient brouiller le message.
Exactement, exactement. Et vraiment, aujourd'hui, elle n'est pas là pour revendiquer la politique actuelle, mais véritablement de sensibiliser les gens, éveiller les consciences sur le fait qu'il faut... être tolérant envers les autres, accepter de vivre les uns avec les autres, accepter la culture, la religion des uns des autres sans en voir pour autant un quelconque danger. Et moi, c'est effectivement comme ça que je vois la vie aussi. Donc, je suis d'autant plus sûre de moi que je fais ce bout de chemin en toute conscience.
Le message est passé. Merci infiniment pour ce joli message. Aurélie Bécuve, je rappelle, vous êtes aujourd'hui, vous, à l'initiative de la venue d'un témoignage, d'une témoin exceptionnelle pour un témoignage rare encore aujourd'hui, Lily Rosenberg-Keller, qui sera donc à Strasbourg le 29 mars à l'église Saint-Guillaume à 17h. Et c'est dans le cadre des bibliothèques idéales. Ça, je le dis pour les réservations.
Tout à fait.
Ça va se passer via ce site-là. Merci infiniment.
Merci à vous. Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.